minéraux qui sont ferromagnésiques, c'est-à-dire qui contiennent du fer. Au fur et à mesure que vous cristallisez ces minéraux, vous allez soutirer du fer au liquide. Donc la teneur en fer va diminuer en magma, puisque le fer va être stocké dans ces minéraux olivines et pyroxènes que vous avez formés. Si vous diminuez la teneur en fer dans le magma, qu'est-ce que vous faites de sa densité, de sa masse volumique? Et vous la faites diminuer également. Si je fais diminuer la masse volumique du magma, forcément, j'augmente la poussée d'Archimède, c'est-à-dire j'augmente ce qu'on appelait la flottabilité. Il va donc arriver un moment où la flottabilité dans le magma cristallisé va être supérieure au seuil de résistance des roches. Et c'est là qu'on va former un lac pour lequel on peut traiter la propagation. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est non seulement de voir comment ce lac se forme et se déplace, c'est de voir ce qui se passe lorsque ce lac a atteint la surface et qui forme un conduit magmatique ouvert qui laisse remonter le magma jusqu'à éventuellement former donc, les édifices dont on a parlé tout de suite. Donc, on va s'intéresser, nous, à l'évolution de la lave à l'intérieur de ces conduits. D'accord ? Donc l'idée qu'on a derrière la tête, c'est essayer de comprendre comment ces différents régimes éruptifs que Claude vous a présentés au premier jour, donc depuis la formation d'épines, les éruptions lignées, les éruptions avec coulées pyroclastiques, et donc les coulées lave, comment toutes ces choses-là sont reliées à ce qui se passe dans le conduit. Donc j'ai fait exprès de vous laisser le document qui doit être en japonais, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore, on va essayer de déchiffrer ce qui se passe dans le conduit.
Il suffit de demander
à un
collègue japonais.
Oui. Mais j'ai vérifié, il y en a pas dans la salle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce qui se passe dans le conduit? On va s'intéresser à ce qui se passe au-dessus de ce qu'on a appelé le niveau des solutions. Si vous vous souvenez bien, on vous a dit que la teneur en gaz qui était dissoute dans la main dépendait de la pression. Plus la pression est élevée, plus on peut dissoudre volatiles dans le magma. Lorsque le magma remonte vers la surface, on voit une pression hydrostatique de plus en plus faible, donc il va finir par former des bulles. Ces bulles vont remonter vers la surface, et la question qu'on peut se poser, c'est quel va être le mouvement différentiel entre le magma qui remonte et les bulles éventuellement qui remontent à travers le magma. Alors ces bulles, elles contiennent du gaz, donc elles sont forcément plus légères que le magma. On peut donc calculer les deux vitesses. Alors, la vitesse du magma, c'est assez simple, c'est donné par le flux de masse, donc ça c'est vraiment le paramètre sur lequel on est déjà revenu plusieurs fois, c'est le paramètre le plus important dans les éruptions, le flux de masse, divisé simplement par la section du conduit, A et la taille du conduit, et puis ρ, la masse volumique du magma. Donc ça nous donne directement la vitesse du magma, elle est directement proportionnée au flux de masse. La vitesse de la bulle, ici, c'est simplement ce qu'on appelle la vitesse de Stokes, c'est-à-dire la vitesse de remontée d'une bille supposée rigide à l'intérieur d'un liquide visqueux. Vous voyez que la vitesse de remontée de la bulle va dépendre de sa différence de densité par rapport au liquide, donc là encore ce qu'on a appelé sa flottabilité, sa taille au carré divisée par la viscosité. Donc ce que vous voyez tout de suite, c'est que le mouvement relatif des bulles par rapport au liquide va être contrôlé par le rapport entre ces vitesse hein, au premier ordre, et va donc quelque part être contrôlé par le flux de masse qui va favoriser la vitesse du magma, la viscosité qui va contrôler la vitesse de remontée. Donc on s'attend à ce que le comportement de cette phase gazeuse et éventuellement l'énergie éruptive, puisque vous avez bien vu que l'énergie éruptive dépend du comportement de la phase gazeuse, dépend de ces deux paramètres, flux de masse et viscosité. Alors, plus particulièrement, on peut s'amuser à faire des calculs en fonction des différentes viscosités des magmas sur Terre. Donc les basaltes, ce sont ces magmas peu évolués qui sont produits par la fusion des péridotites. Et puis ici, vous avez des magmas de plus en plus évolués, c'est-à-dire qui ont cristallisé une partie de l'olivine, par exemple, et qui se sont enrichis en silice, donc qui sont devenus plus visqueux. Au fur et à mesure que vous augmentez la viscosité, vous diminuez la vitesse de remontée des bulles et devait augmenter la taille de la bulle pour permettre d'avoir une vitesse différentielle importante. Ce que vous voyez, c'est que donc pour des flux de masse qui sont rentrés entre 0,1 mètre par seconde et 1000 mètre par seconde, pour des cas typiques de volcans, avec des bulles de l'ordre du millimètre, vous allez pouvoir avoir une vitesse des bulles qui va être de l'ordre du mètre par seconde, donc qui va permettre à ces bulles de sortir du magma. Alors que si vous avez une rhyolite, il faudrait des bulles de la taille du mètre pour que les bulles s'échappent du magma. Donc ce que vous montre ce diagramme de façon assez simple, c'est que lorsque vous avez un basalte peu visqueux, les bulles peuvent circuler à l'intérieur de ce magma, et donc on peut avoir un dégazage presque massif à l'intérieur du magma, alors que dans les rhyolites, les bulles ne sont jamais assez grosses pour pouvoir s'échapper et les bulles vont rester prisonnières à l'intérieur du magma. On peut donc décliner ça maintenant et voir comment ça peut correspondre à des observations sur. Alors si je prends un basalte, un magma basaltique, donc c'est que visqueux, de l'ordre de la dizaine de pascal par seconde, faible viscosité, que se passe-t-il? Les bulles ont une vitesse importante par rapport à la vitesse de remontée du magma. Donc, vous avez un dégazage massif et continu à l'endroit de l'écran et se mettre en place un magma dégazé qui forme des coulées peu visqueuses. On a donc le premier régime effectif qui est celui de la mise en place de coulées. Tout est très simple. On peut finalement étudier les deux phases de façon séparée. Le gaz qui remonte avec sa vitesse de source et puis le magma qui se met en place comme un flux puissant. D'accord pour ça? C'est logique. Si j'augmente le flux de gaz, les bulles sont plus nombreuses, il y a une plus forte densité de bulles, donc elles vont avoir tendance à éventuellement coalescer, elles vont pouvoir former des plus grosses poches de gaz, et vous allez avoir un régime un peu plus intermittent où l'explosion des bulles en surface va provoquer des explosions rythmées. Alors c'est typique du régime stromboïen, vous avez des explosions de poches de gaz de façon régulière à la surface du volcan. Et puis ici, le régime vulcanien, qui sont deux régimes qui sont définis en Italie, vous avez également des explosions de grosses bulles de gaz. Mais ici, comme le magma est un peu plus visqueux, les pressions sont un peu plus fortes, les explosions sont un peu plus notables. Alors, comme Sacha a montré plein de films, je vais quand même vous en montrer aussi, parce que ce serait... Sinon, on va dire qu'il n'y a que le soleil qui fait des films. Alors, qu'est-ce que j'ai comme film intéressant à montrer? Ah ben, j'ai vu les films. Ah, je pense que c'est... Alors, c'est... Bon, bah écoutez... Attendez, je sais pas... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, par exemple, donc un régime de type strombolien, ça valait la peine. Hein. De type strombolien, donc vous voyez, alors il y a du son, je crois.
Non, mais là, je crois qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas de son.
Il n'y a pas de son.
Tu entendrais l'ordinateur directement.
Non, il n'y a pas de son.
Tu n'as pas de son sur ton film.
Non, sur le film, il n'y a pas de son.
Ouais. Si tu veux plus fort directement sur la vidéo, regarde le son que tu as sur la vidéo.
Ah, c'est peut-être la vidéo.
Si, on entend un peu.
Oui, oui,
alors là, c'est, il y a plus, le son doit sortir par le jack, mais il doit pas être branché ici.
Non, oui.
Non, hier, moi, j'avais pas branché le jack, hein. J'avais juste branché.
Ah, ça y est. C'est-à-dire en même temps.
Vous entendez les...
Et du coup, j'éteins ça.
Ça vous voyez aussi
vous entendez le rythme des
équipes techniques tout autour.
Ouais. Ah, ouais.
Comment t'as
voilà. Donc, vous avez le... on va revenir au... Merci à tous.
Voilà, donc voilà pour le régime sombrial. Je vous montre ici simplement donc, une petite. Donc, ça, ce sont les différents volcans qui peuvent entrer ces régimes. Et ce que vous voyez simplement, c'est que en fonction de la teneur en silice, est typiquement reliée à la toxicité, enfin l'inverse, c'est la toxicité qui est reliée à la teneur en silice. Donc, vous avez des volcans qui vont plutôt faire un régime vulcanien et d'autres plutôt un régime sombrélien, mais c'est lié à chaque fois à cette formation de grands blocs de glace. Et puis, si vous augmentez encore le flux de gaz, et ça souvent c'est au début des éruptions, lorsque vous purgez les poches de magma qui étaient éventuellement au-dessus au sommet de la chambre, vous pouvez former carrément des fontaines de lave qui peuvent monter de l'ordre du kilomètre au-dessus de la source. Donc voilà pour les régimes basaltiques. Ce n'est pas contrôlé par la viscosité. La phase gazeuse peut se libérer. Et ce qui va jouer un rôle plus important, c'est le flux de gaz par rapport au flux de magma.
Pourquoi c'est rouge? Qu'est-ce que c'est? C'est la température.
C'est la température. Que se passe-t-il lorsqu'on a des magmas très visqueux? Cette fois, donc, au niveau par exemple des rayons et des acides, vous voyez, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faudrait des bulles qui aient la taille du mètre pour circuler librement dans ces magmas. Donc, ce n'est pas possible. Les bulles sont prisonnières de ces magmas. Alors, on se place dans le cadre d'un écoulement à bulles où on va considérer un liquide visqueux qui contient des bulles. Et on va essayer de résoudre les équations de la dynamique du fluide pour cet écoulement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équation? De façon assez simple, si ça va bien revu sur le sujet, on utilise la conservation de la masse. Donc, ça ne surprend pas, vous avez ici le paramètre flux masse, qui est égal à la vitesse moyenne du magma fois sa densité, fois l'air qui conduit. Donc, cette équation-là, elle est toujours valable, bien sûr. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle la conservation de la densité du mouvement, où vous écrivez que la variation de la quantité de mouvement est donnée par trois effets ici. Bon, bien sûr, le poids de la colonne de magma, le gradient de pression, ça c'est pareil, il y a une surpression dans le champ magnétique, cette surpression permet de faire remonter le magma vers la surface. Et puis ici, vous avez ce que Claude vous a appelé la perte de charge, qui correspond au frottement visqueux du magma sur les corps du conduit. Alors ici, vous avez une formule un peu compliquée qui vous donne une expression possible pour ces frottements. Vous voyez qu'il y a une dépendance à la teneur en gaz qui est non linéaire. Mais ce que vous pouvez retenir avant tout, c'est que c'est proportionnel à la viscosité. Donc c'est dans ce paramètre-là qu'intervient la viscosité. Donc ces équations-là vous permettent de calculer la façon dont remonte un magma riche en bulles et visqueux à l'intérieur d'un conduit électrique. Alors si vous faites calcul, vous pouvez par exemple regarder la façon dont la teneur en gaz augmente au fur et à mesure de la décompression dans le système. Alors ici, vous avez des teneurs en gaz différentes, de 1% à 7%, et ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que la pression diminue, la teneur en gaz augmente, elle pourrait augmenter jusqu'à 1, mais ce qui se passe, c'est que lorsque l'on atteint des valeurs d'à peu près 70%, on s'attend à un changement de phase, quelque part, puisque l'on va passer un système qui est un liquide visqueux riche en bulles a un phénomène là, ici de fragmentation. On va faire exploser les bulles de gaz parce que leur densité est trop forte dans le liquide et on va générer un gel de gaz turbulent qui va transporter des fragments. Donc vous avez déjà parlé de ce phénomène-là, phénomène de fragmentation, donc ici qu'on propose à peu près 70% de gaz. Ça c'est la partie bulleuse. On calcule l'évolution de la teneur en gaz jusqu'à à peu près 70%. À 70%, on fragmente, on libère des fragments de magma de toute taille, et on a au milieu une phase gazeuse continue qui va remonter jusqu'à la surface. Quelles sont les équations qui permettent de calculer l'écoulement au-dessus de ce niveau de fragmentation? Pas de surprise, ce sont les mêmes analyses qui ne changent pas d'avis en fonction de l'écoulement qu'il est en train de regarder. Vous avez toujours la conservation de la masse, vous avez toujours la conservation de la quantité. Ce qui va changer, c'est que le frottement ici, au lieu d'être un frottement visqueux, qui dépend de la viscosité du liquide, va être un frottement qui est lié en fait à la pression de la turbulence sur les bords du conduit, qui va être un frottement beaucoup plus faible. Donc 6 fois 3 est beaucoup plus faible, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'accélération de l'écoulement après une autre fin d'ambition? On s'attend à ce que l'accélération soit beaucoup plus forte. On va passer dans un régime ici qui est un régime laminaire, dominé par les flottements visqueux sur le bord du conduit, à ici un régime turbulent, où on peut oublier les flottements. C'est ce que vous avez sur ces équations-là. Donc, vous voyez ici, par exemple, la vitesse. Ici, vous êtes dans le premier régime où... vous avez ici la première évolution, donc ça c'est le régime laminaire, la pression diminue lentement en fonction de la pression hydrostatique, la vitesse accélère progressivement, et puis ici qu'est-ce que vous avez? Vous avez une niveau de fragmentation, et qu'est-ce que fait la vitesse? Elle accélère brutalement. Donc là, cette accélération brutale de la vitesse, cette discontinuité en vitesse, correspond au phénomène de fragmentation. Vous êtes passé d'un liquide visqueux à un jet de gaz turbulent. Alors les équations pour ce jet de gaz turbulent sont intéressantes. On peut transformer un petit peu l'équation de conservation de la quantité de mouvement. On peut l'écrire sous cette forme où on va équilibrer le gradient de pression par le poids et le frottement. Et on fait ici apparaître une vitesse particulière, UC, qui n'est autre que la vitesse du son dans notre système biphasique. Ça vous montre tout de suite qu'il y a une limite. Lorsque la vitesse atteint la vitesse du son, vous voyez que l'équation devient singulière. Donc on a une vitesse, une condition de choc, où la vitesse va augmenter jusqu'à atteindre cette vitesse du son. C'est pour ça que vous voyez ici que la vitesse atteint un plateau, là la vitesse a atteint la vitesse du son. Vous êtes en condition choc. Alors ensuite, c'est secondaire, mais quand on arrive en surface, si on a un jet à la vitesse du son qui est sous pression, il peut se décomprimer librement dans l'air, et on va avoir un facteur 2 de la vitesse de sortie par rapport à cette vitesse du son dans le conduit. Ça, c'est évident. D'accord pour ça? Donc, quelque part, si vous voulez avoir une bonne estimation de la vitesse typique de la sortie du jet de gaz après la fragmentation, vous pouvez calculer la vitesse du son, c'est une relation purement thermodynamique. Ça vous donne une première estimation. Une fois que j'ai fait ça, c'est ce qu'on fera demain. Vous pouvez vous amuser à calculer la façon dont remonte ce jet turbulent, aux différents membranes dont Claude vous a parlé, dont se forment les coulées pyroclastiques, etc. Donc, nous, simplement, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a regardé comment montait ce magma visqueux. On a dit qu'il fragmentait, et puis il accélère jusqu'à atteindre la vitesse du son, voyez, en condition choc, et ensuite il forme ce magma. Donc, finalement, l'histoire est assez simple, elle est assez directe. Je suis contenté de résoudre l'équation de Navier-Stokes et j'ai pu contraindre tout ce qui se passait dans le monde. Sauf que les choses nous sont. Alors, oui, quand même. Deuxième film.
Up from the crater of 4,000 foot high Mount Vesuvius rise towering clouds of smoke and volcanic ash as the Great Neapolitan volcano burst into eruption, the worst in 38 years. Beneath the billowing smoke, pushed forth. From Vesuvius summit by the incredible heat within the crater, streams of molten rock at 2,500 degrees Fahrenheit surge down the mountain's side. For many years, the ancient volcano has been relatively peaceful. In recent weeks, hardly a breath of smoke had risen from its crater. But now, as it can...
Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer le Vésuve en éruption en 1944, puisqu'on en avait parlé dans le cours précédemment. Où vous avez pu observer donc, des coulées pyroclastiques générées en même temps que le panache du crater. Donc, c'est quelque part, ça peut être l'histoire standard. On imagine donc que notre magma riche en bulles remonte, se décompris, il atteint 70% de gaz, il se fragmente et il produit un jet de gaz turbulent qui va donner un panache turbulent et éventuellement des coulements pyroclastiques. Cependant, la phase gazeuse peut avoir un comportement encore différent. Ici, vous avez des expériences de laboratoire dans lesquelles on a décomprimé du magma riche en bulles et où on a pu observer, vous voyez, là, vous avez deux bulles, celle-ci qui a une petite forme de cœur, là, qui sont en train de se rapprocher, qui sont en train de coalescer. Donc, les bulles magmatiques peuvent coalescer, peuvent créer des chemins de perméabilité. Alors, vous en voyez un ici, par exemple. Hein. parlait de percolation hier. Donc là, typiquement, vous avez d'éventuels chemins de percolation entre les bulles. Donc que peut-il se passer si les bulles commencent à coalescer et à faire des chemins de percolation? Ça fait des chemins qui sont éventuellement disponibles pour que la phase gazeuse s'échappe. Donc cette fois, ça ne va plus être les bulles elles-mêmes qui s'échappent, comme dans le cas d'un magma bouillonneux, ça va être un chemin de percolation et un flux de gaz permanent. Alors c'est ce qui est représenté ici dans ces expériences. On a regardé quand est-ce que les bulles pouvaient créer un chemin de percolation. Ça dépend du taux de remontée, donc de la vitesse dans le conduit, en fonction de la pression. Et vous voyez qu'ici, dans cette expérience de laboratoire, on voit qu'en dessous de 0,35 mètres par seconde, il y a de la connectivité qui va se démarrer lorsqu'il y a 40% de bulles. Et donc, arrivé à 40% de bulles, le gaz va pouvoir éventuellement s'échapper du magma. Alors que si la vitesse de remontée est supérieure à 0,35 mètres par seconde, on n'a pas le temps de développer cette connectivité et on va faire une fragmentation vers 70% pour vous aborder tout à l'heure. Donc, le régime qu'on vient de présenter, qui est le régime avec fragmentation et explosion, est un régime qui pourrait ne pas être réalisé si les vitesses de remontée sont assez faibles pour permettre aux bulles de coalescer et faire des chemins de percolation. Alors c'est quelque chose qui a été effectivement vu sur le terrain, par exemple. Alors ici c'est le CRIC, un exemple sur lequel on travaille avec Claude. Là vous avez le cœur du conduit, puis vous regardez vers l'extérieur. Et ce que vous voyez dans l'extérieur, dans les roches autour du conduit fossile, c'est des chemins qui ont pu être empruntés par le gaz qui s'est échappé du magma perpendiculairement au conduit. C'est-à-dire que la limite entre le magma et l'enlisant a été utilisée par le gaz pour s'échapper. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être vu sur le terrain. Alors, ici, vous voyez, vous avez un dôme, donc un édifice. Sous cet édifice, qu'est-ce que j'ai? Un conduit. Et regardez ce qui se passe lorsque ce dôme est secoué par un petit tremblement de terre volcanique. Regardez bien. Voilà, on le secoue, et qu'est-ce que vous voyez sortir? Du gaz. Ce gaz, il était où? Probablement, il était piégé entre le conduit et les roches en descente. Hein, vous aviez un chemin de percolation préférentielle, avec le gaz qui demandait quelque chose, c'est d'être expulsé du magma pour former ce type de dégazage. Donc, ça, c'est une preuve directe. Il est bien possible de faire échapper la phase gazeuse d'un magma très visqueux.
Et là, il est très chaud, le gaz. Il est de la température de la lave ou pas du magma pas.
Oui, oui, la température du magma, mais il est par exemple beaucoup moins chaud qu'un magma très visqueux, parce que c'est de la très visqueuse, ça, qui sera un peu plus froid.
Mais on est quand même à quelques milliers de degrés.
Non, quelques centaines.
700.
Typiquement, à l'échelle de grandeur, c'est à base de 1000 degrés, et puis cette température-là, peut-être 700. Ok. Donc, observation géologique, conduit fossile, certaines observations directes. On peut donc essayer de modéliser tout ça. Donc, comment est-ce qu'on modélise tout ça? On va conserver nos équations dynamiques et fluides. Je ne vous les remets pas une dernière fois. Conservation de la masse, conservation de la densité du mouvement. Mais qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter l'éventuelle perte de gaz par les côtés. Donc ici, vous avez un flux de gaz, Q, qui est proposé, dont on va dire qu'il est proportionnel à quoi? À la teneur en gaz, alors alpha, ici, alpha est la teneur en gaz dans le système. Et P moins PL, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la pression dans le magma et la pression à l'extérieur. Comme l'a répété Claude à nombreuses reprises, pour que le fluide circule, il faut qu'il y ait un gradient de pression. Ici, vous avez une pression supérieure dans le magma par rapport à l'ambiant. Ça permet de pousser le gaz vers l'extérieur. Alors, on peut faire, une fois de plus, comme on a déjà fait hier, des analyses aux dimensions de ces phénomènes-là, pour voir quels sont les paramètres importants. Et il sort naturellement des équations, ce paramètre C, qui vous donne la contribution relative à la dynamique de l'écoulement de la perte de gaz. Et ce que vous voyez dans le système, c'est que par exemple, ici K, qui est la perméabilité, va être un paramètre extrêmement important. Si K est important, C est important, ça veut dire que les pertes de gaz latérales vont dominer par rapport au transfert vertical dans le conduit. Donc si K est très fort, C est très fort, c'est ce phénomène-là qui domine pour les dynamiques de l'écoulement, et finalement le système va remonter en ayant perdu son gaz et va pouvoir former un nœud. Donc c'est ce qui est ici obtenu par les calculs. Vous avez donc l'évolution dans le conduit et ici la vitesse verticale. Là, vous avez une perméabilité faible, là, vous avez une perméabilité forte. Et ce que vous voyez, c'est lorsque vous augmentez la perméabilité, vous faites chuter la vitesse. Or, si vous faites chuter la vitesse, vous avez plus de temps pour faire partir le gaz sur les côtés. Et donc, au lieu d'avoir un régime clinien qui est celui de la fragmentation, vous allez obtenir des dômes parce que vous n'obtiendrez jamais la limite de fragmentation. Vous n'aurez jamais assez de bulles dans votre bain maxilleux pour le fragmenter parce que qu'est-ce que sont devenues les bulles? Elles ont disparu parce que le gaz est parti sur le côté. D'accord? Donc, quelque part ici, vous avez l'illustration du fait que la perméabilité par le corps de conduit peut contrôler la dynamique de l'écoulement.
Alors,
P1, pardon, c'est le régime intermédiaire, c'est. On peut vous montrer une image en 1902, lorsque la montagne Pelée explose, ça génère ce qu'on appelle les mers dentes, qui sont un type d'écoulement pyroclastique qu'on appelle P1. Donc, le régime P1, c'est un dôme qui se déstabilise et qui forme des bases. C'est un régime un peu intermédiaire. C'est un dôme qui est encore riche en gaz et qui peut exploser. D'accord ? Donc, le premier régime que je vous ai montré, c'était le régime clinien, qui n'avait pas d'autre issue que la fragmentation. En rajoutant ici le phénomène de perte de gaz par les côtés, je suis capable de perdre le gaz latéralement plutôt que d'avoir besoin de fragmenter. Et dans ces cas-là, je fais un régime à l'eau. C'est-à-dire, je peux comprendre pourquoi on a fait une aiguille au niveau de la montagne Pelée au lieu de faire une éruption. Juste une toute petite dernière chose, vous voyez dans le paramètre C, donc on a parlé de la perméabilité, mais vous voyez ici qu'il y a aussi la surpression dans la chambre magmatique par rapport à la pression en surface. Donc là, il y a un deuxième paramètre. Ce paramètre-là vous permet d'introduire un nouveau couplage qui est illustré ici. Alors, à gauche, là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la vitesse verticale de la froideur du conduit. Ici, la vitesse est forte, gaz riche. Qu'est-ce que j'ai comme régime? Le régime clinien. Ici, la vitesse est faible. Quel est le phénomène qui domine? C'est la perte de gaz par les côtés du conduit. Qu'est-ce que j'ai comme régime? Formation d'abord. Et ici, vous avez la limite entre ces deux régimes. Une fois que j'ai fait un dôme, dans ce régime ici, vous voyez que la pression, ici, va être égal à la surpression dans la chambre magnétique plus le poids de la colonne plus le poids du dôme. Donc ça, c'est un rétro-contrôle entre la pression dans la chambre magnétique et puis la formation du dôme. Ça va vous permettre de contrôler le flux de masse. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de la pression à la sortie, qui elle-même dépend du dôme, plus le dôme est élevé, plus la pression à la sortie va être importante, vous allez diminuer le flux de masse. Donc si vous diminuez le flux de masse, qu'est-ce que vous allez faire sur la vitesse ici? Vous allez la diminuer, donc qu'est-ce que vous allez favoriser comme régime? La formation d'un dôme. Si maintenant vous êtes au grand satellite et vous faites chute, vous vous débarrassez du dôme parce qu'il y a une déstabilisation, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez faire chuter la pression à la sortie du conduit, et qu'est-ce que vous allez favoriser comme régime? Le régime d'un fort flux de masse et de. Explosion, d'accord. Donc ce type de couplage, où on a rajouté la perte de gaz, permet de comprendre comment on peut passer d'une éruption de type explosive à une éruption de type effusive. C'est la variation du flux de masse. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut raconter dans ces régimes? Les éléments clés pour la dynamique éruptive, explosion versus effusion, c'est d'abord les propriétés du magma, la teneur en dissoute en gaz. Si vous n'avez pas de teneur en gaz très forte, concrètement, vous ne pourrez jamais vous amuser à avoir des régimes qui dépendent de la façon dont la phase gazeuse se comporte. Et puis, la viscosité. On a vu que si la viscosité était très faible, la phase gazeuse était perdue, qu'on pouvait l'oublier. Par contre, si la viscosité est forte, les bulles sont prisonnières. Lorsque les bulles sont prisonnières, vous avez donc, vous devez prendre en compte la dynamique de l'écoulement. Cette dynamique de l'écoulement, elle va être contrôlée par deux choses. Tout d'abord, le flux de masse. Vous avez vu que le flux de masse, c'est le paramètre central. On se ramène toujours au flux de masse. Quand on fait un nombre sans dimension, ben finalement, c'est toujours par rapport au flux de masse que l'on va raisonner. Ce flux de masse lui-même étant lié à la surpression dans le réservoir. C'est la surpression dans le réservoir qui entraîne une option. Et puis, ce qu'on a rajouté dans un deuxième temps, c'est l'évolution de la phase gazeuse. Une phase gazeuse qui apparaît au niveau des solutions, et ensuite peut se dilater et coalescer. Et vous avez vu que cette coalescence pouvait vous mener dans deux régimes. Soit la coalescence se produit dans un magma qui remonte rapidement, et dans ce cas-là vous allez fragmenter. Soit au contraire, la coalescence se produit dans un magma qui remonte lentement, et dans ce cas-là, la coalescence va créer des chemins de perforation qui vont vous permettre de perdre le gaz par le long du conduit et de générer plutôt un nouveau. Donc ce que je vais vous montrer, c'est bien sûr des choses assez simples, de premier ordre. Après, vous pouvez rajouter tout un tas de comportements non linéaires. Par exemple, la teneur en gaz va contrôler la viscosité. Un magma qui contient beaucoup d'eau est moins visqueux qu'un magma qui contient pas d'eau. Donc ça rajoute un comportement non linéaire. De même, la formation de cristaux peut changer le comportement du magma, ça change sa viscosité, donc là encore, on peut avoir un comportement non linéaire. Donc vous pouvez vous amuser à raffiner ces modèles-là pour aller chercher de nouveaux comportements, de nouvelles instabilités. Mais le grand paysage que vous avez donné là, il reste à peu près vrai, ça vous permet de savoir quel type de régime vous êtes en fonction typiquement de la caractéristique du magma et du flux de masse de l'éruption des intramodales. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire ce soir pour revenir au pantalon. Oui.
Tu as dit tout à l'heure que
Windows, c'était pas si chaud que ça.
Parce que c'est une étude qu'on peut pas. Bah, dans des foreuses. Voilà, oui, c'est ça, parce qu'on est dans des trucs qui tiennent à 2030 degrés, non?
Oui, oui. Non.
Les eaux qui tiennent à 30 degrés, mais ça, tu dois faire un fin de type, je l'ai dit, un peu avec du carbone de tungstène, ça
va. C'est quand tu fais un que tu te dis, c'est comme des super crues, t'as pas besoin d'en faire 50, t'as besoin d'en faire un dans le monde, tu vas percer tous les volcans, quoi.
Oui, mais c'est quoi, tu vois? Les habitants, c'est comme c'est pas besoin.
Mais ça, il n'y a aucun moyen, donc si dans le volcan, dans le dôme du volcan, on ne peut pas, par sismologie, avoir une meilleure idée de la du compte de la présence du conduit. Tu crois pas? Parce que là, autant la croûte terrestre, tu dis que tu filtres les basses, les hautes fréquences, et tu vois qu'on imaginait que on pourrait, là, on n'a pas besoin de s'enfoncer très profondément, de juste regarder où il est, quoi.
Qu'est-ce que Florent Bringuet nous montrera ce qu'on fait de mieux aujourd'hui avec des méthodes basées sur le bruit sismique pour visualiser les réservoirs, etc. Mais c'est vrai. Autre question. Donc demain, on finira le chemin dans les volcans en parlant de la modélisation de la partie atmosphérique, la stabilité des panaches et la remontée des ombres. Comme ça, vous aurez une vision très globale. Et je donnerai un quart d'heure à Claude qui présente l'île de Sombre. Ok ? Voilà, je vais remonter les grosses terres.